Psaume 25. Vers toi, Éternel, j'élève mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis n'exultent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas dans la honte, ils seront dans la honte ceux qui, sans raison, sont des traîtres. Éternel, fais-moi connaître tes chemins. Enseigne-moi tes voies. Fais-moi cheminer dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. En toi j'espère tous les jours. Éternel, souviens-toi de tes compassions et de ta bienveillance, car elles sont depuis toujours. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse, ni de mes révoltes. Souviens-toi de moi selon ta bienveillance, à cause de ta bonté éternelle. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs le chemin. Il fait cheminer les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles son chemin. Tous les sentiers de l'Éternel sont bienveillance et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes. C'est à cause de ton nom, Éternel, que tu me pardonneras ma faute, car elle est grave. Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre le chemin qu'il doit suivre. Son âme reposera dans le bonheur et sa descendance possédera le pays. La pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. D'autres traductions disent « l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent ». Et cela pour leur faire connaître son alliance. Mes yeux sont toujours tournés vers l'Éternel, car c'est lui qui fait sortir mes pieds du filet. Amen. Jusque-là, ce psaume, peut-être avez-vous remarqué le nombre de fois qu'il est dit « chemin » ou « cheminée ». Éternel, fais-moi connaître tes chemins. Fais-moi cheminer dans ta vérité, instruis-moi. Verset 8, l'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs le chemin. Il fait cheminer les humbles dans la justice et il enseigne aux humbles son chemin. Verset 12, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre le chemin qu'il doit suivre. La direction divine. Sois rassuré, mon frère, ma sœur, Dieu promet de te guider dans ta vie. Il a dit dans le psaume 32, « Je te conseillerai, je t'instruirai, j'aurai le regard sur toi. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. » Psaume 32, c'est un verset très connu, verset 5 et suivant. Nous avions, pour rappel, évoqué les quelques étapes dans lesquelles nous pouvons, dans notre vie, être conduits par le Seigneur. Vous savez, ce qui est extraordinaire dans la vie chrétienne, c'est que Dieu nous conduit de manière individuelle. Mais il conduit aussi toute l'Église dans une direction. Nous avons aussi une direction communautaire. Nous sommes dirigés de manière individuelle dans notre vie personnelle. Mais dans la vie communautaire, il y a aussi une direction que Dieu nous donne. Et c'est notre travail, notre devoir en tant que leadership de l'Église de chercher Dieu pour trouver la direction globale de l'Église dans laquelle tout le peuple de Dieu va s'en aller. Donc dans les étapes, nous avons vu que comme un enfant, finalement, il est toujours guidé, mais par ses parents. Il est guidé sans s'en rendre compte. Donc souvent, dans une étape de notre vie, nous sommes guidés sans même que nous soyons conscients de la direction de Dieu. Mais Dieu nous a dirigés. Quand on regarde en arrière, dans le rétroviseur de notre vie, nous remarquons que le nombre de fois que nous avons été guidés, alors que nous n'avions même pas demandé vraiment le chemin de manière précise, mais Dieu nous a dirigés parce que nous étions dans le stade de l'enfant et on se rend compte après coup que nous avons été dirigés. Ensuite, il est aussi juste d'être dirigé par le conseil de sagesse des aînés. La parole de sagesse, c'est biblique, n'est-ce pas ? La parole de sagesse. La parole de sagesse qui est donnée par les pères spirituels. C'est pour ça que nous disons, vous devez avoir un père spirituel, vous devez avoir des mentors, des référents dans votre vie. Et l'Église est là pour aussi, justement, être une référence pour ceux qui ont besoin de direction. Je vous ai raconté qu'à plusieurs reprises, pendant quelques années, juste après ma formation biblique, eh bien, j'ai accepté la direction au travers de mes mentors spirituels, de mes pères spirituels, de ceux qui m'avaient formé j'ai cru et j'ai pris au sérieux la parole de sagesse qui venait de leur part. Et après recul de 30 ans et plus, eh bien, je peux dire que le Seigneur a merveilleusement guidé. Vous allez me dire, mais c'est une parole d'homme. Mais Dieu utilise les hommes pour nous diriger aussi. Tout comme les parents sont utilisés pour diriger leurs enfants. Ensuite, nous avons vu que, comme exemple, que le petit Samuel, en grandissant, la première fois qu'il entend la voix de Dieu, il s'en va directement vers son père spirituel, Élie. Il était à l'école d'Élie. Et lorsque Dieu lui parle, il s'en va vers Élie pour dire « Mais est-ce que tu m'as parlé ?» Donc il fait référence à son père spirituel, l'homme de Dieu de la maison de l'époque. Ensuite, nous sommes conduits de manière plus personnelle. Et là, nous devons grandir dans une soif, dans un désir d'être dirigé, mais sans stress. Il y a des personnes qui stressent beaucoup en disant « Seigneur, il faut que tu me guides, et puis il faut que je... » On va en parler tout à l'heure, de ce stress qui est sur beaucoup de chrétiens qui ont peur de se tromper dans les détails de la vie. Alors relax ce matin, soyez en paix. Le Seigneur est bien plus grand que nos petits stress et nos petites craintes d'avoir peur de se tromper dans la direction divine. Donc il faut avoir une soif personnelle. La soif de sa présence et se donner le temps pour apprendre à écouter sa voix. Nous avions parlé également de ce danger que certaines personnes encourent lorsque, par souci d'avoir quelque chose de Dieu, de recevoir une direction de Dieu, de dire « Mais Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». Et ce « Dieu m'a dit » est une espèce de passe-partout, de passeport pour se dédouaner et de s'excuser de tout. Cela veut dire que certains se cachent là derrière pour se refuser de se remettre en question, pour dire « Puisque Dieu m'a dit, ben, je suis dédouané pour faire ce que j'ai à faire », mais en réalité, ce n'est pas du tout Dieu qui leur a dit, ce sont leurs propres pensées. Ils se sont convaincus eux-mêmes pour avoir enfin une espèce de sécurité intérieure, « Dieu m'a dit », alors que c'est souvent complètement faux et anti-biblique, parce qu'il ne faut pas confondre nos désirs personnels avec la voix de Dieu et nos souhaits personnels avec la voix de Dieu. Et ensuite, nous avons vu une étape supérieure encore, qui est cette croissance dans la direction divine telle que Ananias l'a vécu lorsque Dieu lui dit « Tu vas dans telle rue, tu trouveras un homme qui est en train de prier, tu vas lui imposer les mains, etc. » Ou encore comme Philippe qui va sur le chemin du désert parce qu'il devait rencontrer quelqu'un, ou comme Pierre qui reçoit la révélation, il y a trois hommes qui t'attendent en bas, tu vas partir avec eux, etc. Donc cette direction précise, comme Jésus l'avait aussi connue, est aussi une étape extraordinaire dans laquelle Dieu nous conduit avec précision. Alors je ne sais pas dans quelle étape vous vous trouvez, mais mon conseil et mon désir et ma prière pour vous, c'est que vous puissiez grandir d'étape en étape. C'est que nous puissions faire connaissance de toute cette diversité de la manière dont Dieu nous dirige. Et encore une fois, beaucoup stressent en croyant qu'ils doivent être conduits à un niveau incroyable. Ils lisent des livres, des témoignages, comment les gens ont été conduits, comment des serviteurs de Dieu ont été conduits, et ils disent « Ah, j'aimerais tellement vivre ça !» J'ai l'impression que c'est pour les autres, mais c'est jamais bon pour moi. Ça marche pour les autres, mais pas pour moi. Et puis, c'est vrai qu'on a l'impression, en lisant les actes, que tous les disciples étaient conduits comme Ananias, comme Pierre, comme Philippe ou comme Paul, qui a été dirigé par des visions, des révélations. Et on pense que ça se passait toujours comme ça. Mais détrompez-vous. Ce n'est pas parce que l'Écriture nous rapporte ça qu'ils ont toujours été conduits comme ça. Ce n'est pas parce qu'Abraham il a reçu la voix de Dieu que dans toute sa vie, il a entendu la voix de Dieu de cette manière tout le temps. Si la Bible rapporte 5 ou 6 fois comment Dieu a parlé à Abraham, mais sur 25 ans, ce n'est pas beaucoup 5 ou 6 fois. Donc nous devons voir les choses dans un ensemble. Et beaucoup croient que tant qu'ils n'ont pas entendu une voix audible, tant qu'ils n'ont pas l'impression que Dieu m'a dit, ils sont nulle part. Alors déstressons-nous ce matin. C'est une fausse impression que de croire que tout doit se passer par une voix audible, par une révélation, par un rêve. Dieu ne dirige pas avant tout comme ça. Dieu ne dirige pas avant tout comme ça. Cela peut arriver, mais bien souvent, ce n'est pas comme ça. Pour découvrir la direction de Dieu selon la parole, nous l'avons déjà dit, il faut que d'abord tu sois sûr d'être un enfant de Dieu. Il nous est dit ceci, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, si tu es fille de Dieu, si tu sais que tu es un enfant de Dieu, alors le Saint-Esprit va te conduire. Sa promesse déjà devrait nous suffire. Si tu vis dans le statut de fils, si tu vis dans la condition de fils, si tu te comportes comme un vrai fils et une fille de Dieu, si tu marches d'une manière digne du Seigneur, ne te fais pas de soucis, il te conduira. Il te conduira. Il te conduira. Il est encore dit que l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Fais confiance au Saint-Esprit. C'est pour cela que j'aimerais encore une fois lancer cet appel ce matin. Il faut que tu sois certain que tu sois un enfant de Dieu, que tu aies l'assurance de ton salut. Si quelqu'un n'a pas l'assurance de son salut ce matin, vous ne devez pas quitter ce lieu, vous devez venir tout à l'heure devant et pour qu'on puisse vous expliquer comment recevoir l'assurance du salut. Il n'y a pas besoin même d'une imposition des mains pour cela. Il faut juste accepter la parole, tout ce qu'elle dit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Et nous pouvons savoir, et ensuite l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes un enfant de Dieu. Il nous a adoptés à tous ceux qui l'ont reçu. Ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas toi qui dois t'inventer ce statut, tu reçois ce statut. Tout comme tu n'as pas besoin d'inventer que tu aies un passeport, tu as ton passeport parce que tu es de tel pays, tu es de telle nation, tu es né dans tel pays. C'est simple. Et cette assurance, le Seigneur voudrait nous la donner et que nous puissions cheminer toute notre vie avec cette assurance. Celui qui a l'Esprit de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu. Si tu confies ta vie entre les mains de Dieu, il prend ta vie en charge et il te dirigera. Si tu confies ta vie entre les mains de Dieu, il prend vraiment ta vie en charge et il va te conduire. Regardez, quand Israël est encore en Égypte, ils sont loin de Dieu, ils sont dans un statut d'esclave, ils ne sont pas encore sortis dans la liberté, ils sont dans le statut d'esclave, mais Dieu les a vus. Dieu a eu compassion d'eux. Je les ai vus, j'ai entendu leurs cris et je suis descendu pour les délivrer, dira-t-il. Et ensuite, il nous est dit que lorsqu'ils ont été libérés de l'Égypte, c'est Néhémie qui va dire dans le chapitre 9, verset 12, « Tu les guidas le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. » Le Seigneur n'oublie pas aucun détail. Il va te conduire. Il va te conduire hors de quelque chose pour te conduire vers quelque chose de nouveau. Il va te conduire le jour, il va te conduire la nuit. Il veille sur tes jours, il veille sur tes nuits. Il prend soin de toi jusque dans les détails. Le Seigneur rappelle dans sa parole tellement de détails pour dire, mais arrête de stresser. Arrête de te compliquer la vie. Arrête de te faire des soucis pour rien. Je te conduirai. Ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont conduits parce qu'ils sont fils de Dieu. C'est le peuple, donc, le peuple de Dieu qui sera conduit de cette manière. Mais faut-il encore que nous nous laissions conduire? Il est dit, souvenez-vous, dans le psaume 32, où il est dit, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi, et ne sois pas entêté comme une mule ou comme un cheval. Vous savez, un cheval qui veut aller dans tous les sens, il faut le retenir, ou une mule qu'on n'arrive pas à faire avancer. Il faut lâcher son propre caractère et sa propre volonté doit être soumise à celle du Seigneur. C'est là l'apprentissage. Pour utiliser une autre image, libérez le volant de votre voiture entre les mains du Seigneur. Vous ne pouvez pas être à deux sur le siège du conducteur. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Si vous voulez diriger votre vie, le Seigneur sera à côté. Il dit, ah, je te laisse diriger, moi je ne viens pas. Ça ne veut pas dire que Dieu vous abandonne, mais si vous ne voulez pas abandonner le volant de votre voiture entre ses mains, il vous laissera conduire. Il y a des gens qui sont très contents de libérer le volant de leur voiture pour tout ce qui est compliqué dans leur vie. Seigneur, tous les problèmes compliqués, Seigneur, je suis très content que tu conduises la voiture dans ce chemin périlleux. C'est toi qui conduis. Puis après, quand tout va bien, le ciel est dégagé, la route est droite. Seigneur, j'aimerais aussi, tu peux me laisser conduire un peu là? Et on reprend le volant, on reprend en main. La vie chrétienne, c'est de laisser la direction de Dieu entre ses mains quand tout va bien et quand c'est difficile. Quand c'est difficile, on prie, on crie, on dit « Seigneur, conduis-moi, protège-moi ». Mais quand tout va bien, il faut rester dans la même attitude. « Seigneur, c'est toi qui conduis ma vie. Je t'ai laissé la direction de ma vie et je ne la reprends pas. » Dieu te dirige et comme je l'ai dit, il prend ta vie en charge. Intègre cette parole ce matin. Il prend ta vie en charge. C'est un papa bienveillant. Il prend ta vie en charge. Il s'occupe de toi. Il te dirigera. Deuxièmement, Dieu te dirige parce qu'il a un plan pour ta vie. Il veut diriger ta vie dans un plan que tu ne connais pas, que je ne connais pas. Je ne connais pas. C'est un plan mystérieux. Et je n'ai pas besoin de tout connaître. Il vaut mieux que je ne connaisse pas d'ailleurs. Mais il y a un plan, il est dit dans Éphésiens 1:5, il a pour toi un dessein bienveillant selon sa volonté. Alléluia. Dieu a pour moi un dessein bienveillant selon sa volonté. Maintenant, il va me révéler sa volonté dans sa parole, dans les grandes lignes. Mais les détails du voyage, c'est lui qui s'en occupera. Dieu a tout pensé. Il n'a rien oublié. Rien ne lui échappe. Aucun détour que tu prends, aucune circonstance adverse, ni parfois les délais qui se prolongent et que je ne comprends pas, Dieu est en contrôle. Alléluia. Il contrôle les détours, les stops, les passages de solitude dans la vallée ou dans le désert. Il contrôle tout ça. Il contrôle l'intensité de l'épreuve. Alors, il faut accepter que Dieu a un plan. Une chose importante, nous devons, par principe, accepter tout son plan dans ce livre. Nous devons, par principe, accepter d'avance. Seigneur, j'aimerais pas négocier ton plan, mais j'aimerais accepter ton plan. Je veux adhérer à ton plan. Et souvent, on négocie le plan. Souvent, avant de prendre la route, on étudie le plan et beaucoup s'engagent dans la vie chrétienne en n'étant pas très sûr du plan à suivre. Je prends un exemple, l'exemple des fréquentations, l'exemple du mariage qui est une des grandes décisions de la vie pour beaucoup. Mais dès le départ, avant d'entrer dans la vie et dans le projet de Dieu pour moi, pour le mariage, je dois être au courant de son plan. Je ne connais pas grand-chose de l'avenir et je n'ai pas besoin de connaître, mais je dois être au courant de son plan. Et cela doit être clair pour moi avant le démarrage. Si vous n'êtes pas au clair sur le cadre que Dieu établit, dans le cadre qu'il veuille, en fait, la route qu'il veut me montrer pour trouver quelqu'un, pour rencontrer quelqu'un, lorsque, à ce moment-là, je trouve quelqu'un et que mes sentiments et mes émotions prennent le dessus, je suis perdu. Je ne sais plus très bien où sont le cadre, où sont les limites qui sont posées par la parole de Dieu. Donc, je dois être au clair avant. Je dois avoir les principes de Dieu avant. La décision d'obéir doit être dans mon cœur avant le départ. Parce qu'à un moment donné, je ne m'y retrouve plus. Je suis submergé par des choses nouvelles et je n'ai plus de discernement. Je perds mon discernement et je ne distingue plus la volonté de Dieu. Je ne sais plus très bien où j'en suis. Je ne sais plus très bien ce qui est juste, pas juste. La volonté de Dieu me semble très compliquée parce que tout est mélangé dans mes émotions, mes sentiments et mes désirs personnels. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est Dieu? On ne sait pas. Parce qu'au départ, le cadre n'a pas été étudié. Acceptons et adhérons à son plan. Ce plan qu'il a pour chacun de nous. Ensuite, Dieu dirige avec une intention, même lorsque la direction semble incompréhensible. Est-ce que quelqu'un a déjà été dirigé dans un chemin vraiment qui était incompréhensible? Seigneur, vraiment là, je ne comprends pas. Pourquoi je suis guidé comme ça? Nous passons tous par des étapes où on ne comprend pas le chemin par lequel on passe. Israël n'a pas compris pourquoi il devait passer si longtemps dans le désert. Il y avait des intentions de Dieu qui étaient claires pour Israël dans le désert, par exemple. On aimerait tous une route dégagée et être cheminé, d'être dirigé près des eaux paisibles, près des verts pâturages, et que, si possible, ce soit toujours une autoroute bien, bien libre. Mais la route avec Dieu est rarement rectiligne, uniforme et sans obstacle. Écoutez ce que dit le psaume 139, c'est merveilleux. Il dit, même si je vais habiter au bout du monde, même si tout autour de moi est tout noir, même si je fuis à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira. Alléluia. Dieu ne te perd jamais de vue. Si tu chemines dans le noir, il a des jumelles à infrarouge. Si tu voyages dans le monde invisible, il a son radar, il va te détecter tôt ou tard. Là aussi, ta main me conduira. Lorsque je ne comprends plus rien, lorsque tout est noir en moi et autour de moi, là aussi, ta main me conduira. C'était l'observation de David dans le psaume 139. Prenons l'exemple du fils prodigue. Le fils prodigue, il est vraiment parti dans une mauvaise direction. Il est vraiment parti dans une mauvaise direction. Il part sans la bénédiction du père, il part selon ses propres vues, dans son égoïsme, dans son entêtement, dans son désir de faire sa vie comme il veut lui. Et le père le laisse faire, et Dieu le laisse faire. Mais à un moment donné, il arrive dans une impasse. Et l'impasse et les circonstances fermées sont aussi un message. Là aussi ta main me conduira. Il est conduit jusqu'au bord de lui-même, jusqu'au bout de lui-même. Il est conduit jusqu'au milieu des cochons, il n'arrive même plus à trouver du travail. Tout est fermé et c'est là qu'enfin, le dos contre le mur, il est obligé de réfléchir, de revenir dans ses pensées. Et il rentra en lui-même et il se dit, combien de serviteurs à la maison de mon père ont de quoi manger et moi ici je meurs, je rentrerai chez mon père. Donc ce changement, ce retour vient parce qu'il y a une direction de Dieu mystérieuse qui conduit les choses malgré les portes fermées. Frères et sœurs, lorsqu'une porte se ferme, il faut se poser les bonnes questions. Lorsque quelque chose ne marche plus, il faut se poser des questions. Ce n'est pas pour ça que Dieu est fâché avec vous. Mais il faut se poser les questions. Il faut sonder les cœurs. Psaume 139, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur un mauvais chemin et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il faut accepter dans l'humilité. Dans le psaume 25, nous avons lu plusieurs fois que le Seigneur conduit les humbles. Et ce fils était tellement prétentieux, rempli de lui-même et orgueilleux, qu'il n'était pas ouvert à une parole. Mais lorsqu'il est petit, lorsqu'il est humilié, alors il devient ouvert. N'attendez pas que Dieu soit obligé de vous humilier pour vous parler. Humiliez-vous vous-même. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu et Dieu t'élèvera et te conduira. Et dans les moments où tout semble fermé, ce sont des moments de rencontre avec lui, de remise en question. Revenir au peuple d'Israël, on voit que le texte de Exode 13 nous dit ceci. Lorsqu'ils sont partis de Pharaon, Dieu ne les conduit pas par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Et Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte, mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Un détour. Un détour parce qu'il y a un rendez-vous personnel. Ceci est important. Dieu a toujours une intention, je l'ai dit. Dieu a toujours une intention. Il aimerait que nous ayons une révélation plus grande de lui. Israël ne va pas tout droit dans le pays promis. Il y a un détour vers le Sinaï. Et là, ils sont arrêtés pendant une année pour recevoir quoi ? Pas seulement les 10 paroles de la loi, mais pour recevoir une révélation de qui est Dieu vraiment. Qui est Dieu vraiment? Il devait se désintoxiquer de l'Égypte et il devait recevoir la parole de la révélation de qui est Dieu vraiment, le Dieu de l'Alliance, Yahvé, Jéhovah, le Dieu qui s'intéresse à son peuple, qui veut faire, à partir des esclaves, veut en faire un peuple de l'Alliance, des fils et des filles de Dieu. Dieu a une intention. Par exemple, nous voyons dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus veut passer au travers du lac, passer le lac pour arriver dans le pays de Gadara, il nous est dit qu'il y a une tempête et Jésus dort. Les disciples le réveillent. Jésus va calmer cette tempête par sa parole. Et la Bible dit ceci, que les disciples qui connaissaient Jésus, qui connaissaient le lac, qui connaissaient, se disent, mais qui est donc celui-ci à qui obéissent même la mer et les vents? Donc il y avait un aspect de Jésus qu'ils ne connaissaient pas, qui devait leur être révélé au milieu de la tempête. Au milieu de tes troubles, il y a un stop, un arrêt pour que tu rencontres le Seigneur, que tu découvres qui il est, sous un aspect que tu ne connais pas encore. L'histoire de Lazare est très intéressante, Jean chapitre 11. La nouvelle de la maladie de Lazare parvient à Jésus. Et la Bible nous dit que Jésus va attendre. Il ne va pas partir tout de suite. Marthe et Marie, c'était ses amis. Jésus connaissait Marthe et Marie et Lazare, c'était ses amis. Et il était normal dans leur compréhension que Jésus vienne rapidement vers eux. Ils connaissaient Jésus comme leur ami, ils connaissaient aussi la puissance de guérison de Jésus, ils connaissaient. Mais ils ne connaissaient pas le Jésus capable de ressusciter un mort. C'est pourquoi Jésus attend. Et sur ordre du Père, il attend que Lazare soit mort depuis 4 jours. Et là, Jésus va se révéler d'une nouvelle manière comme le Jésus qui est capable de ressusciter un mort. C'est ainsi que parfois nous sommes conduits dans des chemins de souffrance où nous sommes brisés, nous sommes vraiment parfois à genoux et sans force. Mais c'est là que nous recevons des choses, que nous apprenons des choses que nous n'oublierons plus jamais, frères et sœurs. C'est dans les moments les plus difficiles, où nous sommes dans les larmes, où nous sommes écrasés, nous sommes dans la solitude, c'est là que nous vivons la présence de Dieu, que nous n'oublierons plus jamais. Ce n'est pas sur les autoroutes larges de la direction de Dieu que nous apprenons les plus grandes leçons de vie. C'est dans les sentiers étroits de solitude, les vallées, les déserts et les stops dans notre vie, c'est là que nous rencontrons Dieu comme jamais. N'est-ce pas vrai? Dieu a toujours une attention, même lorsque je ne comprends pas ce qu'il est en train de faire. Maintenant, écoutez, Dieu nous conduit toujours dans un endroit où nous devons être dépendants de lui. Dieu nous conduit toujours là où nous devons être dépendants de lui. J'aimerais redire ça une troisième fois. Dieu nous conduit là où nous devons être dépendants de lui. Car notre tendance, c'est l'indépendance. Et cela remonte jusqu'au jardin d'Éden, souvenez-vous. Satan a suggéré qu'Adam et Ève pourraient très bien s'en sortir seuls en touchant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et vous serez comme des dieux. Il a suggéré l'indépendance. Et il savait que dès que l'homme, par ses propres moyens, devient indépendant par sa sagesse, son orgueil personnel, c'est justement là qu'il se perd. C'est justement là qu'il est en train d'être perdu et en train de s'éloigner pour rater sa vie et rater la cible et le plan de Dieu. C'est pourquoi que Dieu le Père va toujours te conduire dans un endroit où tu auras besoin de lui. Un endroit qui te gardera obligé d'être humble. Car s'il te laisse aller dans tes voies, tu vas forcément virer du côté de l'indépendance et de la fierté personnelle. Mais lorsque tu es conduit, il te conduira d'être dépendant. L'exemple suprême, c'est Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, Dieu fait chair. Son souci permanent, si je peux l'exprimer entre guillemets, ce n'est pas un souci, mais c'était son style de vie, c'était tout le temps la dépendance du Père, tout le temps. Le Père parle, je parle. Le Père ne dit rien, je ne dis rien. Le Père fait, je fais. Il était constamment dans la dépendance totale de son Père, tout le temps. Et ça se révèle dans l'évangile de Jean en particulier. Et c'est dans cette dépendance, c'est de là que venait sa puissance, c'est de là que venait l'onction du Saint-Esprit. Tout le reste, c'est du bluff. Tout le reste, c'est de la façade, de la parade et de la poudre aux yeux. Si vous restez dépendant et petit devant le Seigneur, vous serez guidé dans la dépendance, et c'est de là que viendra l'onction. Et cette onction, mes amis, ce n'est pas dans toutes les manifestations de tout genre. Ne vous laissez pas avoir par ça. Il faut éprouver les choses. Il faut éprouver les choses parce que le diable aussi va faire des choses pour séduire les gens. Il y aura une séduction énorme dans la fin des temps. Mais nous devons avoir la sagesse, l'ouverture et la dépendance du Saint-Esprit et la clarté Bible en main pour que nous puissions vraiment savoir que nous sommes dépendants de lui. Toute indépendance nous mène forcément dans le mur, nous mènera dans la perdition, nous mènera dans la séduction, nous mènera dans l'égarement. Et cela est tellement évident dans beaucoup, beaucoup de cercles chrétiens aujourd'hui. Donc je répète, Dieu nous conduit pour nous garder dépendants de lui. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3, verset 5. C'est là que tu grandiras dans la foi, tu grandiras dans ton appel, dans les dons et dans la confiance en Dieu. Le point suivant, Dieu va te diriger pour te qualifier et te perfectionner pour que tu sois efficace à son service. Donc les routes que Dieu nous donne de faire, de prendre, sa direction, c'est toujours un chemin d'écolier. C'est le chemin d'écolier, c'est le chemin où nous apprenons des choses. Nous sommes dans une école et nous restons à l'école. Est-ce que vous êtes content d'être à l'école du Seigneur? Alors ne faites pas l'école buissonnière. Ne vous échappez pas de cette école, car sur le chemin du Seigneur, qui est parfois un chemin étroit, nous apprenons et nous sommes qualifiés par le Seigneur, perfectionnés pour être efficaces dans son service. Jésus va dire dans Jean 15, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Donc c'est un chemin sur lequel nous allons porter du fruit. Peut-être encore un dernier point, deux choses. Sur ce chemin, tu seras testé dans ta consécration. N'est-il pas étonnant de voir les disciples dans leur choix, le choix de Jésus? Ils étaient en train de travailler, ils étaient l'entreprise de Pierre et de Jean, ça marchait à fond, ils pêchaient, ils vendaient leurs poissons sur les marchés, etc. Et puis quand Jésus les appelle, il les dit qu'ils ont laissé leur filet, ils ont tout arrêté. Ils étaient peut-être en plein boom de leurs affaires, ça rapportait, ça marchait, mais ils ont tout lâché pour suivre Jésus. Et nous voyons ça dans beaucoup d'autres textes également où il y a ce renoncement. L'apôtre Paul va dire dans Philippiens 3, « Je considère tout comme de la boue pour connaître Christ. » Juste une parenthèse de ma propre vie. Vous savez que j'ai raconté souvent que je me suis converti à l'âge de 21 ans, j'étais en plein dans mes études d'ingénieur. Et tant que je poursuivais mes études, il n'y avait pas de souci. Il n'y avait pas de problème. Je pouvais témoigner de ma foi tout en étudiant, mais après mes 5 années d'université, diplôme en main, une carrière qui s'ouvrait dans les années 70, c'était le plein emploi dans tous les secteurs dans lesquels j'avais été formé, il n'y avait aucun souci, on venait nous chercher pour du travail, j'avais 8 offres à l'époque, je m'en souviens. Mais là où ça n'a plus joué, c'est lorsque j'ai laissé tomber ça pour partir à l'école biblique. C'est là qu'il y a eu le grand tournant, et mon père me disait, mais tu peux lire ta Bible après journée, non? Fais ton travail et puis tu liras ta Bible le soir. Il ne comprenait pas ce prix à payer, ce renoncement. Et moi, je ne trouvais pas que c'était dur de renoncer à quelque chose. J'étais attiré par le Seigneur et je trouvais simplement que j'étais dirigé comme ça. Pour moi, ce n'était même pas vraiment un sacrifice, mais avec le recul, je vois les gens, la famille, les amis, se poser la question, mais pourquoi tu as étudié tout ça pour finalement laisser tout tomber et partir à l'école biblique pour te former, pour être dans le service de Dieu. C'est une incompréhension. Mais mes amis, la clé derrière, il y a deux clés. Première chose, c'est que Dieu se sert de tout. Tout ce que tu fais dans la vie, il va s'en servir. Et moi, je peux dire que tout ce que j'ai appris, ça m'a été utile d'une manière ou d'une autre. Ça a été utile à quelque chose. Et je ne regrette rien. Mais la deuxième chose, c'est que Dieu veut voir si tu es vraiment prêt à renoncer à quelque chose pour le royaume. Est-ce que nous sommes prêts, pas juste à voir Dieu et ma vie que j'ai prévue, mais si Dieu me conduit autrement, est-ce que je suis prêt à renoncer à quelque chose? Comme les premiers disciples, on veut prendre beaucoup d'exemples. Élisée, il était en train de charrier avec ses bœufs quand Élie est venu, il a laissé tout tomber, il est parti avec Élie. Ils étaient en train de travailler, ils ont abandonné une condition prospère, favorable. C'est pour ça que je me pose souvent des questions quand un pasteur se présente et quand il ne trouve que ça à faire pour être pasteur. Ou pour servir Dieu, ben, il n'y a aucune porte qui s'ouvre, mais peut-être l'Église peut m'embaucher. À quoi avons-nous renoncé pour servir Dieu ? Et ce n'est pas un sujet de fierté, loin de là. Mais je dis juste que ça correspond à la direction de Dieu, simplement. Qu'il y a des directions où le Seigneur nous teste dans notre consécration. Et je ne voudrais pas seulement raconter une histoire qui est vieille de 35 ans, mais je voudrais que ma consécration aujourd'hui soit au même niveau qu'autrefois. Que je reste dans cette même attitude que Paul disait, « Seigneur, j'ai renoncé à tout, c'est considéré comme de la boue pour gagner Christ. Je gagne le diamant, je gagne la perle précieuse, je gagne le trésor et je vends tout le reste, ce n'est pas un problème. J'ai compris la valeur du trésor, la valeur de la vie en Christ. » Alors je termine par ce dernier point, qui sont quelques conseils, car trop de gens s'égarent dans la direction divine, en prenant, je l'ai déjà dit, en prenant leurs désirs personnels pour la volonté de Dieu, leurs idées personnelles et leurs désirs comme étant, croyant que c'est la parole du Saint-Esprit, et certains même inventent quelque chose, parce que pour ne pas être en reste par rapport aux autres, qui sont conduits, ils disent, mais moi, il faut que je m'invente aussi quelque chose, sinon je suis en arrière. Il faut que je réactive moi-même la direction de Dieu et on pousse dans ce sens, en prenant tout pour la voie du Saint-Esprit, alors qu'ils ne connaissent pas Dieu. J'aimerais vous dire plusieurs petites choses très simples, peut-être 4 points. Tu as le droit de réfléchir. Active ton intelligence, mon frère. Active ton intelligence. Tu as reçu un petit poids pour quelque chose. Ce n'est pas pour le laisser de côté et dire simplement, Seigneur, parle-moi, parle-moi, guide-moi. Est-ce que ce matin, je dois prendre les chaussettes rouges ou les chaussettes bleues? Il y en a qui sont comme ça. Seigneur, est-ce que je dois prendre une tartine, un pain avec du beurre ou bien un œuf cuit dur? Non, mais ne soyons pas des enfants, ne soyons pas ridicules. Nous avons une intelligence et Dieu te dit, je renouvelle ton intelligence, utilise-la. Sois sage, sois intelligent. Il faudrait qu'on ait ici les meilleurs ingénieurs, les meilleurs commerciaux, les meilleures infirmières, les meilleurs profs. L'intelligence doit fonctionner à la gloire de Dieu. L'intelligence soumise au Saint-Esprit, mais l'intelligence quand même. Nous avons une réflexion. Dieu t'a créé avec une réflexion personnelle. Ne descends pas à un stade déséquilibré, frère, sœur. Garde tes motivations pures. Ensuite, en prenant une décision, regarde aux conséquences de tes actes. Est-ce que tu es en accord avec la Bible? Si tu parcours la Bible tracera ton parcours. Si tu parcours ta Bible systématiquement, la Bible tracera ton parcours sans problème. Ensuite, quelque chose d'important, ne prends pas des gens super